C'est mercredi et le mercredi, j'ai la joie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de Moodstep où nous parlons de savoir-être au travail. Cette semaine, je suis allée à la rencontre de Florie Fonterme. Je suis allée à la rencontre de Florie parce que Florie est responsable de la formation des relations entreprises de TTI Success Insights. Et TTI Success Insights forme notamment à l'inventaire comportemental DISC, D-I-S-C. Et il se trouve que dans le cadre de mon travail, de ce que je fais, les turbines à bonheur, je suis très concentrée sur les talents. Donc il faut visualiser une turbine à bonheur et notamment le talentoscope. C'est 2 heures, des groupes d'en moyenne 150 personnes. Et ce que je veux, c'est que les gens ressortent avec vraiment une compréhension de leur mode de fonctionnement et notamment de leur talent, d'apprendre à le détecter chez les autres et après qu'on ait une vision globale des talents les plus présents dans le groupe. Et pour ça, j'ai besoin de tout le temps me perfectionner, d'aller toujours chercher un peu plus loin. Et donc je suis tombée sur DISC dans mes recherches et sur TT Insights qui forme à cet inventaire. Donc je vais découvrir en même temps que vous, c'est pour ça que c'est pas toujours très structuré, mais je vais découvrir en même temps que vous cet outil, et j'espère que, parce que c'est pas évident de le faire passer à l'oral, d'aller vous-même aller creuser sur internet, il y a de quoi approfondir le sujet. Mais allons tout de suite rejoindre Florie. Bonjour Florie.
Bonjour.
Nous allons parler, comment on appelle ça ? DISC, c'est une sorte de profilage ? Comment vous appelez ça ? Une typologie ?
Le terme qu'on préfère, c'est avant tout un inventaire des différents styles comportementaux. On va éviter tous les termes de type test ou autre pour ne pas cataloguer. Voilà.
Avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, savoir un peu d'où vous venez, ce que vous faites ?
Bien sûr. Donc, je suis Florie, en charge de la partie formation chez TTI Success Insight. C'est-à-dire que je suis la garante de la bonne utilisation de nos outils auprès de nos différents certifiés. Et j'accompagne également nos clients entreprises dans l'intégration et le déploiement de ces outils au sein de leur processus interne, qui peuvent aller du recrutement jusqu'à de la formation et de l'accompagnement individuel ou collectif ensuite.
Ces outils, à part le DISC, sur quoi vous formez ?
Alors, on a une palette d'outils qui permet d'identifier une part assez globale de la personnalité. Le DISC, c'est la clé d'entrée, c'est le plus connu avec la partie comportementale. Mais on associe aussi des outils sur les motivations personnelles des individus, sur leurs compétences, tout ce qui est du registre du soft skills, sur l'intelligence émotionnelle. Et enfin, on a aussi des outils de diagnostic type 360 ou évaluation de différents facteurs de stress.
Et vous, avant TTI Success Inside, c'est-à-dire comment vous en êtes venu à faire ce que vous faites aujourd'hui ?
C'est les émotions qui m'ont amené là, et plus particulièrement le sujet de l'intelligence émotionnelle. Moi, j'avais fait un mémoire de fin d'études sur le sujet. Ça m'a passionnée de voir comment les émotions étaient prises en compte ou pas dans l'entreprise. Et dans ce cadre-là, je cherchais un outil qui permettait de mesurer cette fameuse intelligence émotionnelle. J'ai rencontré Patrick Lecomte, qui est le président fondateur de TTI France. Et de fil en aiguille, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre les équipes et donc pouvoir traiter cette matière fabuleuse qui sont les émotions et l'humain de façon générale dans mon quotidien.
DISC, ça vient d'où ?
DISC, ça vient des États-Unis, début du XXe siècle. Ça vient d'un psychologue qui s'appelle Marston et qui a cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'on ne voit pas tous le monde de la même manière et pourquoi est-ce qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Alors pour ça, lui, il a choisi une approche très scientifique, voire presque déjà rattachée aux neurosciences. Pour vous situer un petit peu le personnage, Marston, c'est un des participants à l'invention du premier détecteur de mensonges, et puis c'est surtout sous un autre nom, celui qui a créé le personnage de Wonder Woman.
Ah oui.
Voilà. Donc lui, ce qui l'intéressait, c'était cette notion de vérité, cette notion de comprendre aussi les autres et ce qu'ils font de leur spécificité. Et donc, il s'est attaché à ce modèle-là, basé sur les émotions. C'est-à-dire que la spécificité de ses travaux, c'est de se dire qu'on est tous plus ou moins sensibles à certaines émotions qui vont nous mettre en action ou pas, et ce qui va impacter nos préférences comportementales et toutes les caractéristiques qui s'en suivront.
Quand on dit c'est basé sur les émotions, ce qui serait bien, c'est qu'on regarde un peu comment ça fonctionne, ce disque, c'est quoi, si on devait le présenter pour que tout le monde comprenne bien.
Le disque, ouais. Le disque, c'est un modèle qui va nous permettre d'identifier différents styles comportementaux. Alors, en partant de deux grandes notions clés, la première chose dans les travaux de Marston, c'est qu'on tient compte de la façon dont chacun perçoit son environnement. Donc, on part du principe que certaines personnes perçoivent leur environnement plutôt comme hostile, c'est-à-dire qu'elles n'acceptent pas une situation telle qu'elle est. Et d'autres, au contraire, ont tendance souvent à faire avec leur environnement, donc à en avoir une perception plutôt favorable. Et à ça, on va associer un mode d'action, qui là aussi est du registre des préférences, hein. Certaines personnes sont plutôt dans l'action naturellement et ensuite dans la réflexion. D'autres, à l'inverse, vont d'abord préférer observer et réfléchir pour ensuite agir. Et donc, en fonction de ces deux axes-là, vont se dessiner quatre styles comportementaux. Alors, on est tous un peu dans les quatre styles. On y est toutefois plus ou moins sensible et on se sent plus ou moins en confort en fonction de ces approches. Donc, le
Comment
disque, c'est...
vous évaluez comment une personne perçoit son environnement? Il y a un questionnaire, comment ça se passe?
Oui, tout à fait. C'est avant tout un questionnaire qui se fait en ligne. Chez nous, en tout cas, c'est uniquement en ligne, qui permet, c'est une auto-évaluation où le répondant va hiérarchiser différents terminologies, différents descriptifs de comportement en fonction de ce qui lui correspond le plus et de ce qui lui correspond le moins. Et à partir de là, bah, va se générer ce qu'on appelle voilà, un style naturel qui est le reflet de nos préférences comportementales naturelles. Et on va également permettre de faire ressortir ce qu'on appelle un style adapté, qui là serait plutôt l'équivalent du masque qu'on porte ou de l'image qu'on a envie de montrer pour coller à notre environnement. Alors que ce soit un environnement professionnel ou personnel, c'est aujourd'hui notre réponse à certaines contraintes perçues dans ce qui nous entoure.
Ce que je comprends pas comme ça de première approche, rien que dans ce critère de comment on perçoit son environnement, quand j'entends les deux possibilités, j'ai l'impression qu'il y en a une qui est extrêmement positive et l'autre négative.
Non, alors on va imaginer pour que ce soit peut-être plus clair. Imaginons qu'on soit toutes les deux à l'aéroport en attendant notre avion
Oui.
et que cet avion nous soit annoncé avec 3 heures de retard. Comment vous réagissez
Bah, qu'est-ce que je vais faire de ces
spontanément?
3 heures? Comment je vais les rendre drôles et amusantes?
Donc vous acceptez la situation telle qu'elle est et puis vous vous dites, super, j'ai 3 heures, je vais en profiter peut-être pour aller faire les boutiques ou déjà faire connaissance avec les passagers. C'est ça?
Bah, ça sert à rien de lutter contre quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle, quoi.
Ça, c'est parce que c'est votre propre perception de l'environnement, qui est la vôtre, qui n'est pas forcément meilleure ou pas que celle de quelqu'un d'autre. Mais typiquement, si on se met dans l'autre schéma, donc perception hostile, vous pouvez avoir des personnes qui vont se dire, bah, non, je n'accepte pas, il faut que je trouve une solution, je vais aller chercher un autre vol ou une alternative en train, ou du moins, je vais au moins aller chercher à vérifier l'information.
Mais
Donc
c'est
ça
marrant, je pense que
pourrait
c'est le mot
être
hostile
perçu. Ouais.
qui a déjà une connotation négative pour moi, donc c'est
Celui employé dans l'outil, en fait. C'est pour ça qu'il faut aller toujours un peu plus loin dans ce que les mots veulent dire. Et c'est justement surtout pas à confondre avec une approche optimiste ou pessimiste d'un environnement. Mais c'est plutôt ma position par rapport à une situation. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'accepte ou est-ce qu'au contraire, je décide de faire autrement?
Et le deuxième axe, donc c'est action-observation, et là vous regardez dans quel sens on les met, c'est-à-dire.
On agit entre guillemets, voilà. En fait, ce deuxième axe, il est rattaché à la façon dont chacun d'entre nous se positionne par rapport à son environnement. Certaines personnes considèrent qu'elles sont plus fortes que l'environnement. Alors, ça se traduit par de l'action spontanée, naturelle, une forme de dynamisme et le fait de ne pas avoir peur de prendre des risques. Et d'autres personnes, à l'inverse, peuvent avoir l'impression, alors on ne va pas aller chercher le pourquoi, hein, mais que l'environnement est plus fort qu'elles. Donc ça va se traduire par de l'observation, de l'analyse, de la réflexion pour pouvoir ensuite agir. Donc pareil, qu'on ne se méprenne pas, il y aura de l'action dans tous les cas, hein. Simplement on le voit bien, sur des notions de rythme, tout le monde ne va pas à la même vitesse ou ne se comporte pas de la même manière.
Alors, je suis surprise. Donc, ça, ces deux éléments suivants dans quelle position ils sont, ça crée quatre styles. En quoi? Parce que ça me
Ça fait
paraît.
ressortir
Ça me paraît assez simple, en fait.
Ça l'est.
En quoi vous voyez de la puissance dans cet outil?
Alors, ça paraît simple et c'est ce qui fait la force de l'outil, mais c'est loin d'être simpliste pour autant. C'est-à-dire qu'avec ces quatre axes, on va effectivement faire apparaître quatre grandes préférences comportementales. La puissance de l'outil, elle vient dans le fait qu'on ne va pas forcément chercher ce que vous êtes, on ne va pas vérifier dans quel style de comportement vous êtes. En tout cas, on ne va pas s'arrêter là. On va aussi regarder ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire les styles dans lesquels vous êtes peut-être plus inconfortables, mais qui pour autant vont aussi traduire votre mode d'action. La puissance de l'outil, c'est justement, on part de quelque chose qui est relativement évident. Vous connaissez tous, chacun d'entre nous connaît à son échelle le disque, parce qu'on sait très bien dans nos interactions au quotidien que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. La puissance de l'outil, elle vient du fait que là, on peut le mesurer, on peut l'expliquer, on peut mettre des mots dessus, et on va pouvoir apprendre à identifier et à comprendre des gens qui sont différents de nous, qui n'ont pas le même mode de fonctionnement et comment s'y adapter. Ça met des mots sur des choses qui sont de l'ordre du ressenti très souvent.
Donc, quels sont ces quatre styles? Comment vous les définissez?
Le premier style de comportement qu'on retrouve dans l'outil, c'est celui qu'on appelle la dominance, qui va se traduire par la volonté de dominer une part d'hostilité perçue de son environnement, et vous retrouverez des profils très dynamiques, qui n'ont pas peur de prendre des risques, qui vont souvent droit au but, qui apprécient d'évoluer dans des environnements compétitifs, alors qu'ils peuvent parfois faire preuve d'impatience, hein, mais qui ont souvent un comportement moteur vis-à-vis d'autres personnes.
Donc ça veut dire que ce style-là, c'est je perçois mon environnement comme hostile et je mets l'action avant l'observation, c'est
Ouais.
ça?
Je suis plus fort que l'environnement et je le perçois comme hostile.
D'accord,
Exactement.
ok.
Au-delà d'un style en tant que tel, en fait, cette dimension, elle est le reflet de comment un individu réagit face aux défis et aux challenges. Donc, les personnes qui sont dans la dominance ont besoin des défis et des challenges et sont très confortables dessus. Et les personnes qui sont moins dans ce style-là, bah, traduiront une approche plus consensuelle, plus prudente dans le fait de relever des défis, voire de résoudre des conflits.
Ok. Le deuxième
Ensuite,
style.
on a ouais, le deuxième style, c'est l'influence, qui lui va traduire comment un individu interagit avec les autres et cherche à rallier à son point de vue. Donc, les personnes qui sont dans l'influence sont des personnes très relationnelles, avec une aisance orale, avec un côté réseau fortement développé. Et souvent reconnus pour leur facilité à interagir et à persuader l'autre. Et à l'inverse, les personnes qui sont peu dans l'influence, bah, sont des personnes qui seront sur des approches assez factuelles, qui auront besoin de preuves, qui pourront montrer des côtés un peu méfiants dans leurs relations, ou qui en tout cas feront plus difficilement confiance aux autres.
Là, je fais presque une aparté parce que j'ai l'impression, je ne comprends pas complètement. C'est-à-dire que on évalue pour les quatre styles où on est, ou bien la façon dont vous faites le test fait qu'on sait de quel est notre style prédominant. Parce que là, j'ai l'impression que vous me donnez dans l'influence, par exemple, le plus et le moins.
Ouais.
Est-ce qu'on se retrouve avec quatre critères sur une échelle ou est-ce qu'on se retrouve dans un carré plutôt dominant, influence?
Non. Imaginez sur la forme que les résultats seront sous la forme d'un diagramme. Et donc, on va mesurer votre score sur l'ensemble des quatre dimensions. C'est une échelle qui va de
D'accord.
0 à 100. On a une base de référence qui est dont 50% et qui représente ce qu'on appelle la ligne d'énergie. Donc, on va vérifier si vous êtes plus ou moins dans une dimension. Alors, ma formulation n'est pas forcément exacte parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de dire ce que vous êtes vraiment, hein, mais c'est de regarder sur chacune de ces dimensions, à savoir défi, challenge, interaction, et on verra pour les autres, quelle est votre approche et comment vous positionnez.
Parce que quand je me suis basée sur le début, donc comment on perçoit l'environnement en mode d'action et d'observation, dans quel sens, je pensais qu'on allait se retrouver avec des résultats où on nous dit, voilà, vous êtes dans la dominance ou vous êtes dans l'influence. Là, est-ce qu'on peut se retrouver, et on va finir les deux autres styles, ça fait comme un entracte pub, on va finir, mais là, ça veut dire que par exemple, on pourrait être à 80, 80, 80, 80 dans quatre styles, parce que normalement, ils s'opposent un peu ces styles, non? Quoi,
Il y a
c'est pas qu'ils s'opposent, c'est qu'ils empruntent des chemins différents.
Ils empruntent des chemins différents et ils ne s'opposent pas, puisque comme on a commencé à le voir, ils mesurent des choses très différentes. Donc on ne va pas opposer la façon dont vous interagissez avec les autres avec la façon dont vous avez l'habitude de relever des défis et des challenges. Chaque style est complémentaire. Pour autant, c'est vrai qu'on ne va jamais se retrouver dans les quatre styles à la fois. Le plus couramment, on est entre une et trois préférences comportementales. L'outil cherche pas à dire effectivement uniquement ce qu'on est, et je réinsiste dessus, on va mesurer votre approche des interactions, votre approche des défis et des challenges, et on va accorder autant d'importance à ce que vous n'êtes pas qu'à ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'on va pas regarder que les couleurs dans lesquelles vous avez un score fort, hein. On va aussi regarder les couleurs sur lesquelles vous avez un score bas, puisqu'elles traduisent une réponse à une situation donnée. Par exemple, si on continue sur le troisième style, qui est le style stabilité, ce style-là reflète la façon dont chacun réagit face au changement et perçoit les variations de rythme. Donc, si vous êtes dans la stabilité avec un score élevé, vous êtes des besoins de temps, vous n'êtes pas forcément emballé par les changements, vous fonctionnez sur le long terme, étape par étape. À l'inverse, si vous avez un score bas sur cette dimension, ben ça voudra dire que vous avez besoin de changements couramment et que vous êtes sur un rythme plutôt rapide dans vos actions.
Et le quatrième style?
C'est la conformité qui va traduire l'appréciation de chacun par rapport aux procédures et à ce qui est du registre du cadre et des règles. Donc certaines personnes ont besoin de cadre pour agir et c'est quelque chose de rassurant et de confortable. Elles auront souvent une approche très rigoureuse des choses avec le besoin de faire comme il faut, c'est-à-dire de suivre les règles avec des standards de qualité élevés. Et à l'inverse, d'autres personnes auront besoin de liberté vis-à-vis de ce cadre, hein, pourront s'en affranchir ou en tout cas apprécieront de créer leur propre cadre.
Est-ce qu'il y a des styles qui sont incompatibles, qui ne peuvent pas aller ensemble, qu'on trouve rarement chez
Non.
les personnes ensemble?
Toutes les combinaisons sont possibles, chaque personne est unique, donc nous on vise à envisager toutes les options. Simplement, c'est vrai que certaines combinaisons peuvent parfois engendrer certains tiraillements. Alors chez la personne elle-même, si je suis dans la conformité, j'apprécie d'avoir de la rigueur, mais qu'en même temps j'ai un petit côté influence qui me pousse parfois à aller chercher l'interaction et la notion de plaisir, je peux être tiraillée entre ces deux approches, qui sont pas pour autant incompatibles. Nous, on préfère parler de complémentarité. C'est la force d'un profil, hein, d'être en même temps dans une approche rigoureuse et côté plaisir-interaction. Ce qui peut être un peu plus compliqué parfois, c'est dans nos interactions avec les autres, parce qu'on imagine être face à ces personnes-là et parfois se dire, bah, je ne sais pas trop sur quel pied danser.
On sait d'où viennent ces styles? Est-ce qu'ils sont développés par la culture? Est-ce qu'ils sont développés par un caractère inné? D'où ça vient?
C'est une forme d'inné. Nous, on est présents dans plusieurs pays et on ne constate pas d'impact fort relatif à la culture. C'est-à-dire que la répartition des styles est relativement homogène dans tous les pays. Ce qui change en revanche en fonction de la culture, c'est la façon dont chaque style est perçu. Il y a des pays tels que la Russie, par exemple, ou l'Espagne, où on va valoriser des profils très tournés vers l'action. Je pense à la couleur rouge, hein, qui est la dimension de la dominance. C'est mal vu en Russie, de ne pas être dans ce style-là. Pour autant, il n'y a pas plus de rouge dans ce pays que dans d'autres pays.
Ah, d'accord.
Donc c'est vraiment rattaché à une partie d'hérédité, mais c'est quelque chose d'inné, qui est en chacun.
Donc, si c'est quelque chose d'inné, est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on peut travailler dessus?
Première question, ce serait pourquoi faire ou dans quel intérêt? Ici, l'idée, justement, c'est pas d'évaluer quoi que ce soit, c'est pas de faire un test, c'est juste de partir d'un constat. Vous êtes comme ça. Voilà la façon dont vous aimez vous comporter. On n'est jamais pour un changement, parce qu'il y a peu de raisons de changer qui on est ou comment on fonctionne. En revanche, il est tout à fait possible de s'adapter en fonction des environnements, de développer certaines façons de faire ou en tout cas de forcer les traits en fonction de là où on évolue. Ça change assez peu dans le temps. Ce qui va vraiment changer, c'est le fameux style adapté, qui lui est le reflet de votre adaptation, ça porte bien son nom.
Donc, si on parle des styles naturels et adaptés, est-ce que vous pouvez nous dire, oui, quelle est la différence?
Votre style naturel est celui qui est le reflet de qui vous êtes lorsque vous n'avez aucune contrainte. Lorsque vous êtes en pleine possession de vos moyens et que vous n'êtes confronté à aucune contrainte, Il va montrer comment vous aimez faire les choses, avec quelle préférence. Le style adapté, lui, il est plus le reflet d'une adaptation à un environnement, à un instant T, il peut être plus changeant. Et il va traduire les efforts que vous pouvez mettre en place, alors en fonction d'une stratégie de survie ou de réussite, hein, mais pour arriver à un objectif que vous avez perçu ou à une façon d'être qui vous semble être la bonne dans votre environnement.
Je pensais à un exemple. Moi, j'ai travaillé un mois dans les assurances, dans une grande société d'assurance, et notamment, c'est des sociétés où il y a beaucoup de normes, de processus. Je pense que moi, je suis plus dans des choses où j'ai besoin de créer, ne créer mes propres cadres. Et est-ce que c'est ça? Est-ce qu'en fait, on rentre dans un style adapté parce qu'on est dans un environnement où, par exemple, la conformité est vue comme quelque chose de nécessaire et de positif, quoi. La perception
c'est une des hypothèses possibles, tout à fait. Et c'est ce que moi, j'appellerais être une stratégie d'adaptation de survie, hein, qui, en fait, traduit le fait que bah, pour survivre dans cet environnement-là, pour m'y adapter, pour pouvoir continuer à avancer, il faut que je me plie au cadre qui est la référence dans cet environnement bancaire. Donc, il y a de fortes chances pour qu'on voit votre niveau de conformité augmenter dans votre style adapté. Mais parfois, certaines personnes peuvent s'adapter pour d'autres raisons, simplement parce qu'elles l'ont choisi et parce qu'elles estiment qu'à un moment, pour réussir sur une mission ou pour atteindre les résultats qui leur ont été fixés, eh ben, s'adaptent, mais avec une conséquence qui ne sera pas forcément néfaste pour la personne. Adaptation ne veut pas forcément dire frustration.
Ça ne demande pas plus d'énergie d'être dans un style adapté qu'un style naturel ?
Ça dépend de pourquoi vous le faites. Si vous vous adaptez pour être plus en phase avec vous-même, avec ce qui vous est cher, ou parce que vous n'avez pas le choix, effectivement, le niveau d'énergie peut être différent. Nous, ce qu'on mesure à travers l'outil, c'est les adaptations observables. En revanche, seul le répondant sera capable de dire si ça lui coûte en énergie ou pas. Et donc, c'est l'objet de tout l'accompagnement qui peut être mis en place derrière. Est-ce que, bon, finalement, est-ce que je suis dans un environnement qui me convient?
Je me demande comment vous arrivez à identifier ce qui est de l'ordre du naturel et de l'adapté.
C'est les modalités de réponse qui le permettent. Dans le questionnaire, on vous demande de hiérarchiser 4 propositions qui sont des adjectifs et qui sont rattachés à chacun des 4 styles de comportement. On vous demande de classer ce qui vous correspond le plus et ce qui vous correspond le moins. Et en fonction de ces choix, on va pouvoir générer 2 graphiques différents. Vous savez, on a souvent toujours plus tendance à facilement dire ce qu'on veut pas ou ce qu'on n'est pas, plutôt que de dire ce qu'on est ou ce qu'on aimerait. Donc en fait, ce qui vous correspond le plus, étonnamment, c'est ce qui va générer votre style adapté, c'est l'image que vous voulez montrer, et ce qui vous correspond le moins va traduire votre style naturel.
Ah, d'accord. pour en revenir aux bénéfices, donc on ne va pas vraiment les travailler ensuite, c'est juste pour savoir. Comment on s'en sert? À quoi ça sert? Pourquoi faire le disque, en fait?
Première chose, pour apprendre à mieux se connaître et à mieux s'apprécier. Ça permet de se rassurer, ça permet de mieux comprendre certaines de nos réactions, ça permet de nous conforter ou pas dans un environnement dans lequel on évolue. On précise bien qu'on n'est que sur des préférences comportementales, hein. En aucun cas, on va traduire des compétences ou des aptitudes par rapport à un poste. Donc, c'est d'abord un cadeau qu'on peut se faire à soi, pour se découvrir, mais aussi pour mieux comprendre et mieux interagir avec les autres. Ça permet d'être moins dans le jugement, d'avoir une grille de lecture objective, neutre, qui peut expliquer certaines différences de fonctionnement et nous permettre d'adapter notre communication. Parce qu'on ne va pas parler de la même manière à quelqu'un qui est dans l'influence qu'à quelqu'un qui est dans la stabilité ou dans la conformité. Donc, c'est aussi pour gagner dans son efficacité relationnelle et communicationnelle.
Ben, je suis désolée de vous interrompre, ça veut dire que quand on fait le test, on est quand même capable de le reconnaître chez les autres, non? Ou il faut connaître le style de l'autre pour pouvoir s'adapter à lui?
Il faut connaître le modèle au préalable, il faut y avoir été formé, ou au moins sensibilisé. Mais les clés de l'outil, c'est ça, hein. Une bonne utilisation de l'outil, c'est de pouvoir se l'approprier derrière. Alors on peut imaginer du coup l'appliquer sur une équipe déjà, au sein d'une même équipe pour apprendre à mieux comprendre mes collègues, mais imaginez des formations auprès de vendeurs, hein, où on peut leur donner des clés pour identifier le profil de leurs prospects ou de leurs clients et ensuite mieux s'y adapter. C'est la force de l'outil, on est sur du comportement observable. Pouvez vous passer d'un questionnaire pour pouvoir déjà avoir une idée du profil de la personne qui est en face de vous.
Et donc, on sait par exemple pour la caractéristique de dominance, quel comportement mettre en
Mais ça veut
face.
dire qu'on sort de notre propre style pour s'adapter donc à l'autre.
Ouais, et ça, c'est ce que nous, on traduit derrière la règle de Platine. Traite ton interlocuteur comme il a besoin d'être traité. Si on veut que nos messages passent, il faut apprendre à parler la langue de la personne qui est en face de nous.
Qui a
Donc, c'est
inventé
vrai
la
que
règle de
nous.
platine? Parce que c'est en
Ah,
fait, c'est la règle d'or, mais
made
adaptée.
in TTI Success Insight.
Ah, c'est drôle.
C'est effectivement l'inverse de la règle d'or de la communication. On nous dit souvent, traite ton interlocuteur comme tu as besoin d'être traité.
Alors
Nous,
là aussi,
justement, on
excusez-moi,
parle.
mais vous dites de la communication, mais c'est une règle d'or qui est dans les religions, à la base, une règle d'or pour la vie en général.
Qui est dupliqué effectivement sur
Oui,
beaucoup de choses, hein, et qui.
qui est décliné
Et...
en com, dans toutes les matières, quoi. C'est drôle. Ok.
Voilà. Bon, nous, on a choisi la clé d'entrée communication, mais notre conviction étant que chaque personne est unique, on ne peut pas se dire que tout le monde doit être traité de la même façon, ou en tout cas comme nous. Donc, on est vraiment pour développer l'adaptation de sa communication. On parle du langage du disque, hein, d'ailleurs, le langage des couleurs. Donc, c'est apprendre à parler la langue de l'autre.
Oui, mais alors si l'autre parle mon disque et je parle le disque de l'autre, eh ben on parle plus la même langue.
Ben si, vous parlez votre propre langue à vous, en fait, hein. On est toujours dans le sens émetteur-récepteur. Si votre récepteur, il n'est pas en condition, votre message ne passera pas. Imaginez que vous aviez, alors quand vous étiez dans la banque, là, hein, un client qui serait caractérisé par un style dominance. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a plutôt besoin d'aller droit au but, qui n'aime pas perdre son temps, qui veut avoir des données assez chiffrées et pas de blabla. Si vous commencez à lui raconter comment se passe la vie de vos enfants, et puis tous les détails des clauses des contrats, vous vous rendez compte que vous n'allez pas être impactant dans votre communication. Et de la même manière, si vous avez besoin au contraire d'être dans l'interaction, de passer un bon moment, de créer la relation, mais que lui ne l'a pas cerné, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est une adaptation dans les deux sens.
Ok. Sur les bénéfices, est-ce qu'on a fait le tour ou quel autre bénéfice il peut y avoir?
Un bénéfice qui serait beaucoup plus global pour l'entreprise, pour l'organisation dans son ensemble, hein, parce que si je m'apprécie, si j'apprécie les autres, bah, le groupe ne pourra que fonctionner.
Parce que ça, en fait, vous le faites sur les équipes et vous situez les différents membres de l'équipe sur
On
votre
peut faire
diagramme.
tout à fait. C'est des outils qui peuvent être utilisés à visée personnelle et individuelle dans un premier temps, mais qu'on peut dupliquer à l'échelle d'une équipe. Donc, dans l'idée, chaque membre de l'équipe passe son profil en individuel. Et ensuite, on peut faire un mapping des différentes ressources. Et du coup, visuellement, se faire une idée, eh bien, des différents écarts en fonction des membres. Et ça permet d'expliquer aussi certaines affinités ou certaines difficultés de communication.
D'accord. Et juste vous avez donc vous êtes votre entreprise forme, c'est ça,
Notre
des
entreprise
consultants?
est un. Tout distributrice de ces outils-là. Pour pouvoir utiliser ces outils, il y a deux façons de s'y prendre. Se former, se certifier pour acquérir la compétence et donc la possibilité de traduire les résultats, ou alors passer directement par des personnes déjà certifiées. On est distributeur avant d'être formateur.
Et donc, ce sont ces personnes certifiées qui vont faire le diagnostic avec DISC et ensuite aider à mieux se comprendre. Parce que
Complètement.
est-ce que c'est suffisant en fait de savoir quel est notre style?
Alors, c'est un début en soi, mais ce n'est qu'un outil. C'est-à-dire qu'on ne va jamais faire passer un profil pour une quelconque finalité, hein. L'idée, c'est effectivement derrière que la personne approprie ses résultats et soit en mesure de l'appliquer dans ses différentes situations du quotidien, dans ses différentes interactions. Donc, nous, on conseille toujours d'intégrer ces outils dans des formations sur des thématiques, alors qui peuvent être la communication, le management, la vente, ou sur toute action de cohésion d'équipe ou de team building.
Donc ça s'adresse à tout le monde peut faire ça, il n'y a pas de cible privilégiée.
Non, tout le monde, et même sur des champs d'intervention très différents. Nous, on fonctionne beaucoup par pôle. On a par exemple un pôle santé qui permet une utilisation spécifique de ces outils dans le milieu de la santé, à savoir hospitalier ou pharmaceutique.
Bah, la même chose pour le commerce organisé. Voilà. À partir du moment où il y a une interaction et communication, les outils ont leur place.
Oui, donc si vous êtes moine dans la montagne, ça ne sert à rien. Mais à part
Si
ça, en
vous êtes
fait, on est
seul,
tous en communication.
complètement. Vous êtes tous les jours confrontés au disque sans le savoir.
Peut-être juste pour conclure, je sais que vous faites d'autres méthodes. Alors là, vous dites que c'est basé sur les émotions, c'est un inventaire comportemental. Après, est-ce qu'il y a une d'autres couches avec d'autres outils qui sont intéressants à faire en complément de disque?
Oui, en complément, en premier lieu, on recommande d'aller voir la couche qui est celle des valeurs et des motivations. Alors, c'est un outil qu'on appelle WPMOT, qui signifie Workplace Motivators, et qui va s'intéresser au pourquoi de nos actions. Qu'est-ce qui nous pousse à agir, et qu'est-ce qui va impacter notre vision du monde respective? On pourrait très bien tous agir de la même façon, mais pour des raisons différentes. Donc, ça nous permet d'aller creuser un peu plus la face cachée de l'iceberg.
Ok. Si vous êtes prête, je vous propose de passer au questionnaire qui est commun à toutes les interviews.
Allez.
Ah, on va aller dans des domaines un peu plus personnels. Et comme on ne se connaît pas, eh ben, ça va être marrant. En tout cas, je le pense.
Vais essayer d'être spontanée et pas trop
Voilà.
chercher mes
C'est
réponses.
parce que je vois mon environnement comme non hostile. Et donc, je crois que ça va être très très chouette avec la première question. Est-ce qu'il y a une erreur ou un échec ou quelque chose qui peut être vu comme un échec dans votre vie personnelle ou professionnelle qui vous a particulièrement appris et fait progresser.
Alors, je parlerai d'un échec, en tout cas, je l'ai longtemps vécu comme ça, c'était le fait d'avoir interrompu mes études parce que j'y arrivais pas. Je l'ai vécu comme un échec parce que forcément, ça oblige à revoir un petit peu tout son plan de vie. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est finalement une très belle leçon. Ça m'a permis aussi la résilience, ça m'a permis de découvrir de nouveaux champs, le droit à l'échec. Et ça, finalement,
C'était
je
des
m'interdis
études en
souvent, je
quoi?
pense. J'étais partie sur des études de commerce. École de commerce.
Mais est-ce que, avec tout ce que vous avez exploré sur la connaissance de soi, est-ce que c'était vraiment des études qui vous correspondaient?
Non, 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 c'était un choix qui n'en était pas un, puisque j'ai toujours eu du mal à savoir vraiment ce que je voulais faire, donc j'ai toujours suivi les pistes les plus larges qui ne me fermeraient pas de porte. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est pas très étonnant de constater. Ce qui aurait pu être un échec, mais que je vis donc de façon positive, parce que je relativise beaucoup là-dessus et c'était pas ma branche, c'est tout.
Et donc, comment vous avez rebondi? Vous êtes allé vers quoi ensuite?
Oh ben, j'ai pris un peu de temps de pause avec des
Ouais.
petits boulots différents. J'ai surtout pris le temps de mieux me connaître et de mieux réfléchir à ce que je voulais faire, ce qui était important pour moi, à savoir être en contact avec les autres, leur donner des clés, les aider en fait, hein, d'une manière ou d'une autre. Ce qui m'a permis de me réorienter plus vers la branche RH et de tester des métiers comme ceux du recrutement, comme ceux de l'accompagnement. Et d'avoir découvert ces différents univers me permettent aujourd'hui d'être à une place qui me convient dans un environnement qui correspond tout à fait à ce que je veux faire.
Je digresse, mais c'est vrai que c'est étonnant. Donc, je parlais avec des étudiants encore il n'y a pas longtemps, et on va un peu sans savoir dans des voies. C'est-à-dire, vu ce que vous faites, est-ce qu'il n'y a pas un grand intérêt à faire ce genre de découverte de soi, de nos styles, de comment on fonctionne dans les écoles, avant même qu'on décide d'aller en école de commerce ou de faire des RH ou du droit,
Ça
ou je ne sais quoi.
a tout à fait son sens dans un parcours d'orientation. Et nous, on est en train de mettre en place un pôle qui accompagnera spécifiquement les écoles, familles ou associations dans une logique de meilleure connaissance de soi pour gagner du temps, pour savoir tout de suite finalement ce dont on a besoin, se diriger vers la voie qui est la nôtre, en tout cas qui nous intéresse, et éviter des situations telles que moi j'ai pu les connaître, hein, ou éviter que les étudiants se sentent en décalage par rapport à ce qu'ils sont.
Ok. Est-ce qu'il y a une technique ou un outil en dehors de ce dont on a parlé qui vous a particulièrement intéressé ou fait avancer?
Oui, alors en termes de technique, moi la technique qui me permet souvent d'avancer de façon positive, c'est celle qui me consiste à imaginer le pire. Quand je
Ah
sais que j'ai
oui,
une
ouais.
réunion, une formation ou quelque chose en jeu qui va se passer, j'imagine le pire des scénarios possibles. Et ce qui me permet finalement de me dire que si ça se réalise vraiment comme ça, j'aurai déjà la solution en tête.
C'est une très bonne technique à utiliser avec les autres aussi quand ils sont bloqués, de lui dire, bon, allez, imaginons le pire. Et là, ils se rendent compte que le pire n'est pas si
C'est
pire
ça.
que ça, quoi.
Qu'est-ce qui pourrait se passer, effectivement? Puis on n'a pas grand-chose à craindre finalement. En tout cas, rien de grave. Et en termes d'outils, sans faire promotion, on a un outil qui, moi, m'aide tous les jours à titre personnel et professionnel, qui s'appelle PTSI, Personal Talent and Skills Inventory, et qui et permet d'identifier nos talents personnels, et qui, en fait, traduit quelque chose de très simple, mais qu'on ne s'avoue pas toujours, c'est qu'il y a des choses pour lesquelles on est bon, il y a des choses pour lesquelles on est moins bon. Autant essayer de capitaliser sur les choses pour lesquelles on est bon, plutôt que d'essayer de s'évertuer à développer ce qu'on ne sait pas faire. Et donc ça, je m'efforce de le faire tous les jours.
Troisième question. Quelle est selon vous la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Parlerai de l'empathie. Je parlerai de cette volonté, de faire grandir les autres, cette attention portée à chacun des collaborateurs. Aujourd'hui, la dimension managériale est au cœur de beaucoup d'enjeux RH et malheureusement, on voit encore trop de managers tyranniques ou qui managent par la peur. En fait, il faudra avoir un style de management par collaborateur. Et donc ça, c'est possible si on a un minimum d'empathie, si on s'intéresse aux personnes qui sont en face de nous.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire que tout le monde n'est pas fait pour être manager, parce qu'il faut développer certaines compétences, il faut s'adapter justement à chaque personne de l'équipe. Tout le monde n'a pas ce talent-là.
Je pense qu'on a tous fait les frais et qu'on a tous pu constater qu'effectivement, tout le monde n'est pas forcément bon manager ou n'a pas les compétences pour l'être. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que des compétences managériales, c'est quand même avant tout des compétences de savoir-être plus qu'une expertise métier. On fait souvent la différence entre un expert et un manager d'ailleurs. Et c'est un métier humain que de manager.
Ouais, mais en fait j'ai l'impression que quand même dans les sociétés aujourd'hui, eh ben en fait on valorise énormément le fait d'être manager, de entre guillemets diriger, alors que c'est un rôle spécifique, mais il est tellement valorisé que c'est compliqué même quand on n'a pas ces qualités-là de ne pas vouloir monter dans cette hiérarchie.
À mon sens, il y a deux écueils aujourd'hui hein, sur la dimension managériale. C'est que dans beaucoup d'entreprises, ça représente un échelon en soi, c'est-à-dire l'étape d'après, c'est de devenir manager. C'est à un moment une finalité dans sa carrière. Si t'es pas passé par la case managériale, ça va pas. Première erreur à mon sens. Et deuxième chose, c'est cette confusion entre le métier de manager et le métier d'expert. Enfin, manager est un métier à part entière, à mon sens. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur un cumul des missions, un cumul des postes, et accompagner une équipe, ça devrait se faire presque à temps complet.
Ouais. Ensuite, est-ce qu'il y a un livre que vous conseilleriez à la lecture?
Ouais, je conseille un livre sur les accords Toltec. C'est un livre qui, je trouve, si on prend la version originale de ce livre, à mon sens, tout le monde devrait un jour la lire et ça permet de réfléchir un peu sur soi. Et puis d'être dans une posture que j'appellerais positive, ou en tout cas qui amène à être une meilleure personne. Et il y a une version managériale, manager avec les accords Toltec, qui est aussi, je trouve, un livre pertinent pour tout manager ou personne encadrante, qui amène à voir les choses autrement, travailler ensemble autrement. Et donc je conseille les accords Toltec sous toutes leurs formes.
Ok. Toltec à fond.
Voilà.
Et dernière question, est une citation qui vous inspire?
Ouais, j'ai noté, la perfection est un chemin, non une fin. Tout est toujours perfectible et ça se construit.
Vous êtes perfectionniste?
Très. Mais j'apprends justement à me dire que comme on peut toujours mieux faire, on peut aussi se contenter parfois de ce qu'on a. Mais oui, la qualité en tout cas, plus que la perfection, est quelque chose d'important pour moi.
Ok. Donc, pour vous retrouver, je suppose qu'on va voir TTI Success Inside. Vous êtes à Lyon, c'est ça?
Toute l'équipe est basée à Lyon, effectivement. Donc, on serait ravis de vous accueillir dans nos nouveaux bureaux.
Tout beau.
Je
On peut
mettrai je
oui.
mettrai le site en lien dans l'article qu'on retrouve sur SoundCloud et iTunes et sur le blog moodstep.com, bien sûr. Pour conclure, sachez que je suis magicienne. J'ai une baguette magique, donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter personnellement pour la suite? De quoi vous avez envie? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir?
Wow, ça, c'est une question qui a un vrai projet de vie. Si la baguette magique, elle me permettait d'apporter du bien autour de moi, ça va faire cliché, mais aider les personnes à s'apprécier comme elles sont et à être fières de ce qu'elles sont et de ce qu'elles font, je pense que j'aurais accompli quelque chose de beau et un bel objectif de vie.
Vous pensez qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, il y a beaucoup de gens qui se dévalorisent?
Oh oui,
Oui.
malheureusement. J'ai l'impression, hein, ce n'est que moi, mais
Et
je
la
pense que...
dévalorisation, c'est une dévalorisation de ce qu'on est ou c'est une mauvaise connaissance de comment on fonctionne et donc on n'est pas à sa pleine capacité? Alors là, c'est
C'est
une
le
question
fait
fermée,
de
mais.
ne pas assumer, je pense, ce qu'on est. Et ça vient d'une logique de comparaison qui aujourd'hui est présente dans beaucoup, beaucoup de choses. On n'arrête pas de se comparer à ce que font les autres, ce qu'ils ont, qui ils sont, comment ils sont habillés. Bref, ça peut aller jusqu'à dans les moindres détails. Mais parfois, on oublie du coup de se regarder, de s'auto-centrer un petit peu. Puis c'est ce qui compte finalement, c'est soi. Hein. Si on n'est pas en accord avec soi-même, on l'est difficilement avec les autres aussi.
Bon, bah moi aussi, je m'associe à ce feu, à ce vœu. Espérons que la baguette magique fonctionne bien.
Ça c'est fait.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qu'est DISC. Et puis, il y a plein de ressources quand on fouille un peu sur Internet. Je m'attendais
Alors
pas du
ouais,
tout à ça, je
un
vous
peu
avoue.
trop même.
Ah, c'est
Attention
vrai,
à tout ce qu'on trouve.
on se perd. Et ben, bonne continuation. Et puis qui sait, on se
Merci.
recroisera peut-être sur un autre sujet là. C'est intéressant là. C'est quoi le MP, le quoi le.
Le WPMOT, mais oui,
Ah,
on
le
pourra parler
WPMOT.
de
Non,
nos
le
différentes paires de lunettes.
PTSI.
PTSI, sur nos talents respectifs et de quoi
Ok.
chacun est fait.
Merci beaucoup et puis bah, très bonne journée.
Merci Johanna, bonne journée.
Bon allez, je vous lâche un peu avec les typologies. Je sais que j'ai un intérêt tout particulier pour tout ça. Même si je pense qu'il ne faut pas oublier que toutes ces typologies, toutes ces façons de mieux se connaître, il ne faut pas que ça nous enferme non plus parce que en tant qu'être humain, on a tellement de facettes. Nous sommes uniques et en même temps, il y a des courants ou des lignes qu'on a en commun, certains d'entre nous. Donc c'est toujours intéressant de les comprendre, les connaître, sans s'enfermer dedans. Ça me fait toujours rire quand je rencontre quelqu'un qui dit « Ah moi, ça dépend en plus de dans quoi vous bercez. » Alors si c'est l'énéagramme, « Ah tu es un type ceci, je suis un type cela. » Et alors chacun a ses références. Donc si j'explore avec vous tous ces profils, c'est pas pour nous enfermer, mais pour comprendre certains aspects de notre personnalité, mais bien sûr la combinaison de tous ces aspects font de nous des êtres uniques. Donc je vous lâche un peu la grappe, nous n'irons pas voir tout de suite le PTSI et le WPMOT. La semaine prochaine, on se retrouve avec Pierre Goiran, on va parler du corps, de la relation au corps, au travail. Et puis après, j'ai quelques rendez-vous. Donc en fait, comme d'habitude, ce ne sera pas tous les 15 jours, mais je pense un peu toutes les semaines, dans les semaines qui viennent. On va sûrement aussi aller explorer la méditation. On va aller faire un tour du côté des RH et plein d'autres sujets en préparation. Mais avant d'être sujet, beaucoup de rencontres en fait. Je rencontre même ma petite ville de Bretagne, je rencontre pas mal de monde grâce à la magie de Skype et de toutes ces connexions que le web nous permet. Donc, je vous dis bah, à la semaine prochaine. Très belle semaine à toutes et tous!